Nous sommes le jeudi 4 avril, il est 21h07 sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Alors, est-ce que je dois chanter le générique comme la dernière fois ? Allez, je chante le générique. Tin 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 maybe. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment ça va ? T'as l'air un peu en panique en ce début d'émission.
Oui, écoute, il y avait une source supplémentaire que je n'attendais pas pour le son.
Mais heureusement, mon imitation brillante de The
Xbox. En fait, quand t'as commencé, je me suis dit, je peux pas t'arrêter. Enfin, t'as l'air tellement bien parti. Et... voilà, je pense que tout le monde avait besoin d'entendre ça.
On annonce encore une émission légendaire ce soir.
De grande qualité.
Oui, bah ce soir, un air de la game comme on aime. Au sommaire aujourd'hui, on va parler. Tu vas nous parler du bilan 2023 édité par l'Institut Newzoo.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et auparavant, tu avais quelques petites news à nous partager. Je t'en prie.
Quelques petites recommandations, en fait.
Exactement.
Et j'ai envie de commencer parce que je lui avais dit que je le ferais. Et puis parce que, voilà, et ça vaut le coup en plus. Je voulais vous parler du podcast de Oni. Un podcast qui s'appelle 50%. Oni, donc, un journaliste, ex-Canard PC, D'autres, ils bossent aussi sur Frandroid, je crois. Frandroid, il a fait 2-3 trucs avec eux.
Oui, aussi, oui.
Voilà, donc.
Il a aussi fait de la collaboration avec Gamekult, il fut un temps.
À une époque, ouais.
Ouais, une époque. Enfin, ben, en tout cas, pas maintenant, évidemment. Juste avant. Il était. Alors, si c'est pas directement sur Canard. Sur Gamekult, il a participé à certaines émissions de Gamekult. On le sait assez
invité,
proche.
Oui.
Voilà, on le sait assez proche des gens d'Origami aussi. Donc, voilà.
Et très récemment, il a fait partie aussi de la première émission de Option de la MUA
sur
Twitch, qui parle de technologie de façon un petit peu globale.
Oui. Il a fait JVCom,
Il a fait un peu tout chez Webedia.
Il a fait Webedia, la Total, il a fait du numérique. Il a fait les numériques aussi.
Ouais, c'est
et
ça.
Là, il se lance en solo, en fait, sur son truc.
Plus ou moins, du coup, parce qu'il invite beaucoup de gens à participer à son...
Oui.
Enfin, c'est vraiment sa façon de faire, de façon générale, à l'âme, hein, d'inviter les gens avec qui il a envie de travailler. Ou en tout cas de travailler avec des gens qu'il connaît déjà et avec qui il se sent bien. Donc pas étonnant qu'il ait demandé aussi à Oni de faire partie de ça. Et du coup, donc le podcast dont je voulais vous parler, 50%, donc, que Oni réalise avec son pote Rémi, c'est une approche... Enfin, c'est précisément sur la musique des jeux vidéo.
Ah.
Alors, d'un côté, on a Rémi qui apporte son approche justement théorique de la musique. Et de l'autre côté, Oni, qui amène sa connaissance des jeux et plus précisément des anecdotes sur la production des jeux concernés. Donc voilà, c'est disponible un peu partout sur les plateformes de podcast, sur YouTube également. Mais évidemment, faut suivre Oni pour sa façon de traiter l'actualité technologique, les cryptos de façon générale. Évidemment, en se moquant allègrement de tous ceux qui y croient encore. Et puis évidemment de jeux vidéo aussi, parce qu'il joue également donc sur Twitch ou en replay sur YouTube.
Voilà, et l'émission en fait elle est consacrée à tout ce qui est musique de jeux vidéo.
En fait, ils choisissent un jeu et donc ils vont décortiquer finalement la musique. Je crois que la dernière émission en date elle est sur Metal Gear.
D'accord, ok.
Voilà.
Et c'est bien, surtout qu'il y a de plus en plus d'initiatives par rapport à tout ce qui est musique de jeux vidéo, après que les démons de midi se soient arrêtés quelques temps. Donc
l'énorme travail de Gotoz et Pippo Mantis là-dessus.
Voilà.
Ouais.
Et c'est ça, avec leur quasiment sans émission, ils sont arrêtés juste avant, les pauvres. Je sais que voilà, il y a des initiatives qui reprennent. Je pense aussi à Peter Line, dont la newsletter est vraiment très consacré qualitative, consacrée à l'actualité de la musique de jeux vidéo et vraiment qualitative. Pour le coup, je sais qu'il y a eu une émission spéciale de ZQSD avec du coup Peter Line et Furolite sur la musique de jeux vidéo qui était assez intéressante.
Ok, ça j'avais raté, mais ok. Ouais. Bonne nouvelle. Deuxième petite recommandation, un article du coup qui est paru ce matin dans Canard PC sur l'avant-garde queer du jeu vidéo écrit par Kabuka, qui traite d'une étude parue dans un ouvrage The Queer Games Avant-garde: How LGBT Game Makers Are Reimagining the Medium of Video Games.
D'accord.
Donc comment finalement les développeurs, enfin les créateurs de jeux vidéo LGBT réimaginent, j'arrive pas avec ce terme, le médium du jeu vidéo. Donc il consacrait une vingtaine d'artistes qui donc composent une scène avant-gardiste qui existe depuis environ 2012, mais qui évolue vraiment loin des projecteurs, principalement sur itch.io.
Oui.
Quelques-uns sont sur Steam, mais c'est vraiment pas la majorité. C'est une marginalité forcée par une industrie qui n'a jamais voulu financer leurs projets, mais qui, je cite, « loin des pressions des studios, il est possible d'explorer des narrations, des gameplays, des expériences de manière inédite et innovante ». Donc voilà, je me disais que ça correspondait globalement parfaitement au sujet de... au concept de cette émission, pour le citer. Donc voilà, c'est un article, je vais y arriver, qui est réservé aux abonnés, mais il sera peut-être rendu gratuit par justement les abonnés qui le décident, parce que déjà ce matin, il avait pas mal de votes pour ça. Donc il mériterait d'être l'article gratuit de la semaine, rien que pour faire plaisir aux anti-Sweet Baby Inc. Voilà. Et puis dernière recommandation à l'aveugle, enfin pas complètement parce que je voulais vous parler du nouveau jeu de Noël Malware.
D'accord. Qui c'est qui Noël Malware?
Noël Malware, c'est un ancien journaliste de Canard PC et qui est parti de Canard PC il y a à peu près un an maintenant pour faire des jeux en fait. Et du coup c'est déjà son troisième jeu sur itch.io gratuit qui s'appelle cette fois-ci Weird Fishes. Qui est inspiré par les œuvres, plus précisément de Lovecraft, du mangaka Junji Ito et de Mary Shelley, qui a quand même écrit Frankenstein. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. J'ai aucun doute sur la qualité d'écriture, parce que c'est déjà, c'est sa grande. C'est pour ça qu'on le connaît, en fait, tout simplement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on l'attend. Et voilà, les graphismes ont été réalisés par Midjourney, donc par IA.
Oui.
C'est un sujet en soi qui mériterait qu'on en parle sérieusement.
Oui.
Je comprends dans le cadre d'un développeur solo qui propose son jeu de façon gratuite.
Oui. C'est pas pareil, oui, parce que c'est sûr que moi je me souviens notamment d'avoir vu le projet sur Twitter. Mm-hmm. Je me souviens, le rendu incroyable et tout.
Moi,
et...
j'ai vu tout de suite.
Ah, d'accord.
Ça se voit, en fait.
Le rendu, j'ai fait incroyable et tout. Et puis, quelqu'un posait la question, dis donc, ce rendu, c'est ouf. Et,
c'est Gotos.
C'est Gotos qui a posé
la question.
Et du coup, Manu, c'est.
Manu Denise. Manu Denise, donc, en fait. Qui est Noël Malware, son pseudo.
Oui, parce que j'allais dire Manu Denise, parce que.
Et oui.
J'ai fait, attends, c'est pas ça, c'est pas le nom que t'as dit au tout début.
Et non.
Et qui répond.
Ils sont chelous, ces gens avec ces pseudos.
Non, voilà. Et qui répond, j'aurais bien aimé quelque chose de glorieux, mais non, c'est du Midjourney, quoi.
Voilà. Mais donc, malgré tout, je suis complètement confiant parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer. Il est sorti il y a quelques jours, je crois, lundi ou dimanche.
Bon, sûrement, mais dans la semaine, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc, j'ai pas encore pris le temps d'y jouer, mais j'avais parlé de son premier jeu qu'il avait fait l'année dernière. Et du coup, c'était complètement cohérent d'évoquer celui-ci qui est déjà son troisième, parce que, évidemment, j'ai raté son deuxième, j'en ai pas parlé ici.
Évidemment. Avant qu'on évoque justement, on évoque le sujet principal de cette soirée, qui sera le bilan 2023 édité par Newzoo, et qui nous expliquera comment on arrive avec un nom pareil pour un institut, voilà.
Alors malheureusement, j'ai pas la réponse. j'ai un indice, mais on en reparlera.
Ok. J'aimerais juste qu'on parle vite fait jeux vidéo et pratique.
Oui.
À quoi tu joues toi là en ce moment? C'est quoi le jeu auquel que t'es en train de poncer?
Il y en a deux en fait.
Ouais.
Alors très très vite fait. Let's Build a Zoo.
Oui.
Qui est un zoo builder. En gros, on va créer un zoo en mode parc d'attraction.
C'est aussi un très mauvais film avec Matt Damon, soit dit en passant.
D'accord, j'ai pas la ref.
Non, mais okay. Il y a un film qui s'appelle Les Bill de Zoo avec Matt Damon et. Non, pourri.
Ok. Non, mais là, c'est un thème parc, hein, globalement. On va créer un petit parc, un petit lieu. En fait, on va recevoir des gens. Un Planet Zoo. C'est
d'accord,
ça,
oui, c'est ça.
Un truc comme ça.
Ou un
mais
tycoon, hein.
en pixel art, donc vraiment limité hein, graphiquement, mais avec son petit style, avec sa petite touche. Avec la petite particularité qu'on a un séquenceur ADN qui nous permet de faire des croisements entre les animaux. Donc voilà, dans mon parc, j'avais des lapins capybara, voilà, un corps de lapin, une tête de capybara, un âne avec une tête de serpent, enfin bref. Voilà, mais c'est plutôt rigolo. Et l'autre jeu auquel je joue, mais un peu plus actuellement, c'est Death Must Die. Donc la mort doit mourir.
Ok, très bien.
Et c'est un Vampire Survivor qui aurait mangé Diablo. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans une ambiance, dans une esthétique.
Je comprends pas. Diablo. Il faut rien faire ou il faut cliquer comme un démon ?
Il faut cliquer comme un. Oui, j'aurais pas dit démon, mais c'est à peu près ça. Et en même voilà, on va buter des squelettes, des machins, dans une ambiance visuellement assez proche de Diablo. Et mais le reste, c'est vraiment très très basé sur Vampire Survivor, avec à chaque on va récolter des points d'expérience qui vont nous faire passer des niveaux, et à chaque passage de niveau, on va prendre des améliorations. Mais comme dans un Diablo, il y a aussi tout son inventaire. On va choper une épée plus 1, puis une épée plus 2, puis enfin voilà. Cette logique-là, en fait, qui est assez développée. Donc voilà, il y a encore un early access. La fin du jeu n'est pas encore implémentée. Mais dans le domaine en fait, du Vampire Survivor qui a essayé de faire évoluer le concept, pour l'instant, en tout cas, c'est un de ceux qui me plaît le plus.
Ok.
Et toi ?
Et ben, en ce moment, je suis au beau milieu du scénario de Life is Strange True Color.
Ok.
Et que j'aime, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je ne vais pas en dire plus, je vais finir le jeu parce que, comme souvent sur ces jeux, ça repose beaucoup sur des éléments scénaristiques et sur la cohérence du tout. Mais pour l'instant, je passe un excellent moment et je kiffe chaque instant sur ce jeu. Mais je vais plutôt parler d'un jeu que j'ai fini il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Wavetale.
Ok.
Qui est un jeu plutôt rare vu que c'est un jeu qui a été fait à la base pour être une exclusivité Stadia.
Et oui.
Donc c'est quand même
feu Stadia. Ouais, voilà. RIP.
Stadia, donc le système de jeu de Google qui est mort de sa belle mort il n'y a pas si longtemps, l'année dernière. Hein.
Qui est mort dès qu'ils ont eu l'idée. Hein. L'idée était mauvaise, c'était déjà mort.
C'est ça. En fait, l'idée n'est pas mauvaise. La mise en exécution était absolument atroce.
L'idée est mauvaise de t'obliger à acheter des jeux en plus d'un abonnement pour jouer en cloud gaming.
L'idée de faire du stream, ça paraît pas si con. C'est le reste qui était.
Voilà.
Le modèle économique était absolument atroce. Et non, on ne parlera pas des jeux gratuits d'Epic Game Store. Tais-toi.
J'ai strictement rien dit.
je t'ai vu.
Alors qu'eux, ils avaient aussi les moyens de l'alimenter.
Ah bah c'est Google quand même. Ah
bah
donc
oui,
ils auraient pu faire quelque chose.
Bah c'est Google, oui, ils ont quand même un petit peu de moyens. Oui.
Ils auraient pu faire quelque chose de très très qualitatif. Donc c'est un jeu donc d'une team norvégienne, donc de Thunderful Development. Et le principe, c'était en gros, on joue un personnage, féminin dans un monde qui a été dans un monde post-apo qui a été ravagé par les eaux, où tout a été, où les trois quarts en fait du monde connu sont recouverts d'eau. En fait, on se retrouve un beau matin face à une menace reconnue en fait, qui est en gros représentée par une sorte de boue, de gadoue très noire qui recouvre un peu tout et des fois qui prend possession de certains objets pour attaquer les dernières colonies humaines. On peut se dire oh là là, un truc un peu grobile et tout, mais je trouve que c'est l'esprit qui a mieux su capturer l'esprit d'un jeu qui s'appelait Beyond Good and Evil, sorti en 2003.
D'accord.
Un côté, je sais pas si tu y avais joué toi à l'époque ou pas.
Très peu, mais oui.
Mais donc en fait le principe c'est quelque chose de relativement innocent et sain, en tout cas dans sa manière de narrer, mais finalement un jeu qui est très touffu, qui permet beaucoup de gameplay différents. Là, le gameplay est très orienté navigation, et la navigation est vraiment super intéressante, sachant que le personnage acquiert très tôt le pouvoir de pas marcher sur l'eau, mais vraiment de glisser sur l'eau tel un surfeur, quoi. Et en général dans ce genre de jeu, et ben si tu arrives à faire un système de déplacement qui est cool, un peu à la manière d'un Spider-Man,
t'as déjà gagné
les trois quarts du boulot. Le jeu, je pense que voilà, le jeu il va souffrir du fait d'être pas assez touffu et de peut-être pas proposer assez de diversité, mais par contre justement il est toujours très frais. J'aime beaucoup ce qui j'ai beaucoup aimé explorer partout. Il y a des défis aussi avec du time trial, avec de la plateforme, etc. C'est vraiment très cool, c'est sans prétention, ça coûte pas grand chose. Alors là, en ce moment, ça a coûté 20€, mais j'avais chopé pendant les soldes Steam, ça m'a coûté 6 ou 7 balles. Et j'ai passé un excellent moment avec, et je le conseille très fort.
Ok. Bah écoute, vu qu'on a fait la fin de l'émission au début.
Oui, mais je voulais qu'on parle jeux vidéo un peu.
Avant qu'on parle de chiffres. Non, mais t'as raison, parce que le sujet va forcément nous amener à discuter.
Oui.
J'ai préparé une petite partie, mais je sais très bien, je te connais, que ça va... Je ne me regarde pas comme ça. Je sais très bien que ça va forcément amener des discussions, en fait.
Non, mais vas-y, je te promets, je ne vais rien dire.
Donc,
j'éclaircis ma voix, vas-y.
Oui, oui, voilà, prépare-toi. Donc, le sujet principal, effectivement, c'est le rapport de Newzoo sur l'activité du jeu vidéo sur PC et sur console en 2023. Mais qui est Newzoo ? Tout simplement, première question. Newzoo, en fait, c'est un cabinet d'études de marché, donc un agrégateur de données sur le jeu vidéo, sa consommation et ses tendances, qui est clairement considéré comme le leader sur le marché, enfin sur le domaine. Mmh. Il a été fondé en 2007 par Peter Warman et Tish Agort, basés à Amsterdam, vu leur nom, et en plus, voilà. Et donc, je pense que c'est... Enfin, voilà, quitte à... en hollandais, ça veut sûrement dire quelque chose de bien, Newzoo, mais effectivement, ça sonne un peu jouet.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais bon, mais toujours est-il que, oui, voilà, c'est quand même quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, et qui a clairement fait ses preuves dans ce domaine-là, en tout cas. Alors, il emploie entre 50 et 200 employés sur LinkedIn, enfin, d'après la page LinkedIn. C'est difficile, effectivement, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un minimum sérieux, parce que ces données sont utilisées dans de très nombreuses publications.
Et comment ils acquièrent leurs données ?
Parce que la plupart de leurs clients sont dans le domaine, tout simplement. Parce qu'ils vont effectivement récupérer des données auprès de que ce soit des magasins, auprès des éditeurs, des studios. Ils font un boulot, on va dire, de récupération des données... comme ça, en fait, il suffit de voir la liste de leurs clients pour voir que, fatalement, ils vont avoir des infos concrètes sur le sujet. Parmi leurs clients, donc, on compte tout simplement Activision Blizzard, Google, Dell, donc le fabricant, Microsoft, Warner Bros., Nvidia, Wargaming, qui fait quand même des jeux aussi multijoueurs, War Thunder.
Un jour, il faudra qu'on parle de façon un peu plus précise.
Peut être intéressant. Ils ont aussi Sony dans leur truc.
Okay.
Un petit éditeur dont on a beaucoup entendu parler ces temps-ci, Embracer. Logitech, Krafton, qui fait PUBG, 2K, Bandai Namco, et je m'arrête là.
Oui.
Mais là où c'est un peu plus surprenant, on trouve aussi Coca-Cola.
D'accord.
Porsche et Pernod Ricard. Non, ne me demande pas pourquoi, j'en sais strictement rien. Mais voilà, c'est la liste des clients, ou en tout cas des gens avec qui ils travaillent, avec qui ils échangent, de façon très régulière, qui est affichée sur leur site.
Uniquement sur du jeu vidéo ? Ou sur de la tech aussi ?
Leur domaine, et les domaines sur lesquels ils publient, c'est effectivement sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, de façon globale, donc en général, le mobile également fait partie de leurs analyses.
Okay.
Mais là, le rapport qui nous intéresse, donc effectivement, ils publient régulièrement des articles de blog sur le marché globalement. Ils font aussi des articles et des études payantes, beaucoup plus dirigées, je dirais, sur un domaine, sur une activité, sur un produit. Et certains de leurs rapports donc sont disponibles gratuitement ce qui est le cas aujourd'hui, enfin ce qui est le cas du rapport annuel sur l'année 2023 sur le marché du jeu vidéo PC et console, donc qui nous intéresse aujourd'hui. Et qui n'est, étonnamment, que le deuxième qu'ils aient réalisé du genre.
Ah oui.
Ah oui, habituellement, ils sont beaucoup plus sur du ponctuel, sur du trimestriel, sur des choses comme ça. Là, c'est la deuxième fois qu'ils font quelque chose d'annuel, vraiment sur un marché de façon beaucoup plus globale. Et donc, y a beaucoup d'informations hein, dans ce rapport. Qui, alors oui, hein, comme on en avait vite fait parler un peu avant, tu as posé la question de comment est-ce qu'ils récupèrent leurs données. Je dirais que la réponse, elle n'est pas vraiment donnée, mais c'est plus dans l'autre sens. Tout le monde vient récupérer leurs infos. Tout le monde se sert de leurs informations, que ce soit les publications, on va dire les articles. On retrouve également leurs travaux dans des publications beaucoup plus, on va dire, industrielles. Et peut-être même dans des... J'ai déjà vu des rapports de Newzoo cités dans, par exemple, des rapports annuels présentés aux actionnaires de certaines boîtes. Voilà, donc ça sert vraiment de base de données globale sur l'industrie. Et donc on retrouve... du coup, ils attaquent leur rapport par évidemment une introduction, un petit rappel de tout. Et ils attaquent évidemment par le dur. Une information importante, c'est que d'après leurs études, le temps de jeu global décline. Les gens jouent de moins en moins, et on parle vraiment de façon extrêmement globale. Pas et... de toi en particulier, mais ni de moi, hein, parce que nous ça va.
Ouais.
Mais mais de façon globale, mondiale.
Ouais.
Le temps de jeu global décline.
On est en 2023, c'est ça?
En 2023, par rapport à 2022.
Est-ce qu'il y a une analyse qui est faite? Parce que c'est peut-être lié à la fin des mesures...
Tout à fait, on en parlera effectivement. Là, c'était plus pour poser les premières infos en fait, avec lesquelles ils t'accueillent dans ce rapport.
D'accord, ok. Ça joue moins longtemps qu'avant.
Voilà.
Est-ce que ça dépense toujours autant?
Ça dépense plus.
Ah, ça dépense plus pour jouer moins.
Mais il y a un mais. donc le temps de jeu global décline, mais il constate également, ce qui n'est pas surprenant dans une économie capitaliste, une toujours plus forte concentration des moyens dans les mains de moins en moins d'acteurs, donc là précisément de studios et d'éditeurs. Mais ça, ils le développent un peu plus par la suite. Autre élément en fait qu'ils vont développer, c'est ils envisagent une croissance modeste, parce que le ralentissement général du marché, qui a quand même connu une croissance de 2,6% l'an dernier pour atteindre 93,5 milliards de dollars,
ouais.
Un peu plus de 95 millions d'euros si on veut faire la conversion. Ils voient les consoles comme principal moteur de cette croissance à venir, parce que c'est le domaine où c'est plus actif, en tout cas c'est un peu plus vivant. Mais ils prévoient quand même que la croissance du nombre de joueurs sera de plus en plus réduite, suivant une tendance depuis les dernières années. Le nombre de joueurs, calculé hein, encore une fois par leurs soins, est passé de 1,2 milliard de personnes en 2018 à 1,431 milliard de personnes en 2021. Donc c'est quand même 16% en 3 ans. Mais depuis 2021, entre 2021 et 2023, il n'est monté que de 4% pour arriver à 1,492 milliard de personnes.
Donc, si on ne dit pas de bêtises, il y a quand même une personne sur... quasiment une personne sur 5...
Qui joue aux jeux vidéo ?
Qui joue aux jeux vidéo dans le monde.
C'est pas forcément déconnant quand on se souvient du rapport dont on a parlé de la dernière fois, du CEL.
Oui, c'est pas...
Qui envisageait... S'il se base sur les mêmes critères pour déclarer que quelqu'un est un joueur...
Oui.
Vu qu'il avait dit qu'en France, on est quasiment à 60-70%, enfin, voire un peu plus... Ça me choque pas.
Sachant qu'il y a forcément plus de joueurs de jeux vidéo dans les pays dits développés que dans les pays en...
C'est pour ça qu'ils précisent justement...
en voie de développement pas dire autre chose.
C'est ça. En fait, eux utilisent le terme de pays émergents.
Ouais.
Donc les zones concernées, donc l'Amérique latine, l'Asie, du Sud-Est précisément, l'Inde...
Ouais. Quand ça fait 40 ans qu'ils émergent...
Tu vas être surpris quand ils vont arriver. Non, mais oui, effectivement, c'est ces pays-là où la croissance du nombre de joueurs est potentiellement la plus importante.
Évidemment.
Et d'où, réflexion intéressante, en fait, que j'avais jamais vraiment liée, il disait d'où l'intérêt du cloud gaming. Parce que ce sont c'est une porte d'entrée beaucoup plus accessible, en fait, et beaucoup plus intéressante financièrement dans ces régions. où le matériel n'a pas du tout le même prix, en tout cas le même rapport par rapport au coût de la vie. Du coup, c'est pas inintéressant comme approche, en tout cas comme...
Ça avait été une grosse discussion
lors du rachat
d'Activision par Microsoft.
Ouais.
Tout le marché du cloud gaming sur lequel Microsoft est très dominant, ou en tout cas se veut très dominant dans le futur. En tout cas, forcément, dans les pays émergents, de toute façon, il y avait le premier marché qui était le marché du jeu mobile.
Ouais.
Et lorsque justement ce marché du jeu mobile sera saturé et que certains pays pourront plus facilement accéder à des technologies plus intéressantes, au moins d'un point de vue terminal, et pas sans forcément avoir à balancer des technologies extrêmement de pointe un peu partout, avoir juste un terminal entre guillemets qui stream. Qui stream le jeu plutôt que d'avoir une console qui est obligée de la calculer elle-même, ça peut être intéressant.
Mm-hmm. Ouais, c'est pas inintéressant comme point de vue.
Je me souviens d'un reportage notamment sur la Birmanie, où on dit que la Birmanie, très petit pays, longtemps sous junte militaire, est revenu sous junte militaire, parce que quand même, faut pas déconner.
Il y a la tradition. Hein.
Voilà. Qui n'avait absolument aucune infrastructure
ouais.
mobile, en tout cas, autre infrastructure de téléphonie mobile. Et là où nous, on se traîne des techniques où il faut gérer le réseau téléphonique, plus la 1G, la 2G, le WAP et ce genre de bêtises.
Tu parles à des vieux, là.
Ah bah oui, non, mais en même temps, enfin en gros, tu es obligé de te faire une dette et de faire en sorte que t'adapter aux anciens systèmes avec les infrastructures existantes.
Ouais.
Là, ils sont arrivés directement avec une infrastructure qui était directement du dernier cri. Et qui fait qu'en fait tout le monde se retrouvait avec des très bonnes connexions en très peu de temps, parce qu'ils ont installé directement les dernières
tout ce qui était disponible aujourd'hui,
les dernières techno en termes d'infrastructure, et c'est qui fait que des pays justement comme ça auront beaucoup moins de mal à s'adapter avec du cloud gaming par rapport à des pays où les infrastructures sont certes déjà faites, mais refaire les infrastructures pour faire passer des plus gros débits dans des plus gros tuyaux, et ben ça coûte vachement cher.
Alors ça me fait penser, rien à voir, mais il y a eu un article très très récemment là sur à quel point on pourrait accélérer encore le débit par la fibre optique qui existe déjà et qui est déjà en place, tout simplement avec des questions en fait de traitement logiciel des informations qui y passent dedans. Il y en a même qui disaient qui pourrait légèrement l'accélérer, tu vois, genre aller 12 millions de fois plus vite. C'est assez fou intellectuellement, tu vois, penser que la fibre pourrait être à ce point-là encore plus rapide avec du matos qui est déjà actuellement en place. Mais c'est le résultat d'études de chercheurs anglais.
D'accord.
Donc, c'est un autre sujet et j'ai pas assez de billes là pour en parler, mais du coup, ça me fait beaucoup penser à ça, en fait.
Faudra le faire lire à Najat, ça.
On a dit qu'on parlait pas de ça. Mais toujours
est-il. C'était trop tentant, désolé.
Non, mais pas de souci. Maintenant qu'on a dit effectivement que, l'état d'une croissance effectivement qui est ralentie actuellement dans un peu tous les domaines finalement du jeu, parce que on en reviendra un petit peu là-dessus, mais la croissance de 2,6% rapportée à l'inflation par exemple.
Ben c'est en dessous de l'inflation.
Est-ce qu'on parle vraiment encore
après,
de croissance?
Après, on parle de l'inflation de qui? L'inflation mondiale, l'inflation du dollar, l'inflation...
On va évidemment parler de l'inflation globale, mais si on parle d'une inflation globale, on va forcément, dans le cadre du jeu vidéo, on va parler de l'inflation dans les pays où la consommation est la plus importante.
Donc si c'est l'inflation en Occident, oui, on est au-delà de 2,6.
Voilà, donc au final, est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus proche d'une stagnation qu'une évolution?
C'est ça.
Et un truc intéressant, effectivement, c'est que qui rappelle beaucoup, c'est que en fait, au niveau du temps de jeu global, c'est pas compliqué. C'est Fortnite et Roblox qui sont loin, mais alors loin au-dessus.
C'est pas étonnant.
Et qui sont mécaniquement, mathématiquement, les principaux concurrents des nouveaux jeux qui arrivent aujourd'hui.
Deux raisons: ils sont gratuits et ils bénéficient d'un parc.
Ouais.
Sur lequel ils sont déjà installés et diffusés.
Et depuis très longtemps.
Depuis vachement longtemps.
C'est ça. Et donc je reviens sur le temps de jeu dont on parlait juste avant. Il avait tout explosé évidemment entre 2020-2021 suite aux différents confinements. Et il est en chute, mais il est en chute massive. On parle quand même de moins 26% du temps de jeu depuis 2021.
Mais on parle d'une époque où Animal Crossing était un phénomène de société.
Oui, mais c'était un des symboles de ça, c'était aussi plus général que ça.
Oui, disons que c'était un symbole visible, mais c'était tout le monde. Enfin, on en parlait il y a pas très longtemps, le fait que beaucoup de financiers se soit lancé dans les investissements dans le jeu vidéo parce que c'était un des domaines qui pulsait à fond et qui continuait à fonctionner quand tout était arrêté.
Mais du coup, on constate également que en termes vraiment du temps de jeu, comment est-ce qu'il est réparti sur 2023, il y aurait 66 titres qui auraient vampirisé 80% du temps de jeu. Et 90% des revenus des jeux sortis en 2023 ont été accaparés par seulement 43 titres. Et donc vraiment on est sur une concentration extrêmement importante finalement du temps, de l'argent sur un nombre restreint des acteurs du jeu. Les revenus... que je reprenne sur le truc, j'avance un petit peu mais ça va un petit peu dans tous les sens. Le rapport en fait est assez dense, il fait 40 pages, un truc dans le genre. Il y a des graphiques, il y a beaucoup de choses, mais les informations, en fait, parfois se recoupent, finalement, au fur et à mesure des données.
Non, mais honnêtement, ça ne m'étonne pas. Moi, je me souviens je me souviens d'un dénommé Bobby Kotick, qui disait que ses ennemis, ce n'était pas EA, ce n'était pas Steam, ce n'était pas les autres concurrents. Ses ennemis, c'était des gens comme Netflix. Et en fait, ce dont il parlait... Alors, c'était à l'époque où Netflix était...
C'était pendant les confinements.
Était beaucoup plus en forme qu'aujourd'hui. Même si Netflix n'est pas extrêmement à plaindre aujourd'hui, mais on en parlera peut-être une autre fois.
Eux aussi avaient tablé sur une croissance infinie.
Oui, non, mais c'est ça. Mais par contre, voilà, c'est là la discussion, elle était sur le temps en fait de cerveau disponible.
Oui, on en revient vieux. C'était Étienne Moujotte ?
Non, Patrick Lelay.
Patrick Lelay, je les confonds tous les deux.
Le copain d'Étienne, c'était Patrick Lelay, voilà. Le temps de cerveau disponible, vendu par TF1 à l'époque. Mais j'ai envie de dire que c'est une expression qui est certes très cynique, mais extrêmement.
Qui correspond bien à la réalité de la majorité du marché aujourd'hui, qui est du jeu service, en fait.
C'est ça.
Donc du jeu où on va répétitivement revenir, remettre de l'argent dedans régulièrement, à l'inverse finalement des jeux où qu'on achète une fois et c'est marre. D'ailleurs ces jeux qu'on achète en une seule fois, il n'y a plus vraiment à remettre de l'argent dedans ensuite, ils ont représenté 56-57% du total des ventes l'année dernière.
C'est quand même bien. En fait, je pensais que ce serait moins que ça.
Oui, mais en fait, ils ont été énormément boostés par deux trois titres qu'ont tout cassé. Hogwarts Legacy.
Ok.
Baldur's Gate 3.
Ok.
Il y a eu quelques titres comme ça.
En termes de grosses ventes, j'imagine qu'il y a les Zelda aussi.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Zelda qui a cartonné.
Globalement, toute la Switch. Enfin, tous les jeux exclusifs à la Switch.
Mais oui.
Capacité finalement à être en achat une fois et ensuite. Qui te prend énormément de temps et finalement
un jour on aura les chiffres de Splatoon, faudrait voir. Je sais qu'en Occident c'est pas à la folie, mais il me semble que
plutôt, au niveau global, ouais, c'est
au
pas
niveau
mal,
global hein. Que ça soit en Japon ou en Chine, apparemment c'est des chiffres qui sont assez hallucinants. Donc
mais du coup, si on dit...
ils ont sorti un 3 en très peu de temps, je pense que c'est parce que ça marche, hein. c'est pas parce que ils trouvent ça très joli d'un coup
et qu'ils avaient envie de rajouter des trucs, hein.
Ouais.
Non, c'est mais du coup, 56-57%, il reste pas mal de place, pas mal de thunes. Sans surprise, hein, il y a un tiers qui part dans
Warzone.
Les microtransactions. Il y a un tiers qui part dans les microtransactions.
Oui, ok.
10% dans le contenu téléchargeable.
Ouais.
Et le reste est réparti dans différents types d'abonnements. Mais là, on parle pas des Game Pass, ce genre de choses. Hein. On parle des abonnements, par exemple, à un WoW. Mais il n'y a pas 10% qui reste, hein, dans WoW, mais c'est un exemple de ce genre de dépenses. Dans le domaine. Et alors, une petite liste des 10 jeux les plus joués, par exemple, sur PC.
Est-ce que je peux essayer d'en trouver ?
Vas-y.
Tu penses que je peux en trouver combien sur les 10, à ton avis ?
Oh, c'est pas compliqué. On a déjà parlé de certains là-dedans.
Ok, 2023, c'est ça?
2023, oui. Okay. Qui ont été joués en 2023, pas qui sont sortis. Hein.
Ok.
Qui ont été joués.
Bon, Baldur's Gate?
Non.
Ok, Starfield?
Non, pas sur PC.
Pas sur... Alors, sur PC, très bien. Ok. Fortnite?
En première place, sur PC, sur PlayStation, sur Xbox et sur Switch.
Ok. Roblox, j'imagine, doit être joué sur PC aussi.
Première place sur PC, cinquième place sur PlayStation, cinquième place sur Xbox. Pas présent de mémoire sur Switch.
Très bien. Warzone?
Warzone, alors à toutes les déclinaisons
tous les,
des Call
of. Toutes les déclinaisons de Call of.
Voilà. Call of. Sixième sur PC, troisième sur PlayStation, deuxième sur Xbox.
Ok.
Voilà.
D'accord.
Donc on est pas mal hein, pour l'instant.
Ok. Apex, s'en sort comment?
Apex Legends, il est pas mal sur PlayStation, il est 9ème.
Ok.
C'est quand même correct, 9ème également sur Xbox.
C'est pas mal.
Mais pas présent sur, sur
pas
PC.
Pas présent sur PC?
Non. Ok.
D'accord.
Mais t'étais pas... dans une direction d'un type de jeu là.
Ouais, d'accord. J'étais plutôt dans ce type de jeu là.
Voilà, il y en a d'autres.
D'accord. Overwatch peut-être?
Alors non.
Ah.
Non, effectivement, il est pas, il est cité
d'accord.
nulle part.
Ok. PUBG peut-être?
Eh ben non plus, dis donc.
Oh, alors des jeux, des gens qui se tirent dessus?
Oui, il y en a quelques autres, en multi-compétitif.
En multi-compétitif
Ouais, il y en a un, il marche pas mal depuis quelques dizaines d'années.
Ah, quelques dizaines d'années? Ah, Counter-Strike.
Oui, c'est
oh
ça,
mon Dieu.
Et ses différentes déclinaisons, évidemment.
Oh là là, les Counter-Strike.
Ah bah sur PC, il est quatrième.
Punaise. Il y a pas Team Fortress quand même?
Non.
Ah bah je suis bête, les jeux Riot Games, il y a pas du League of Legends?
Oui,
qui traîne.
League of Legends, oui, bien sûr.
Oui, voilà, du League of Legends qui doit traîner quand même.
Ah si, Apex. Oui, non, tu m'avais dit Apex, je t'ai répondu.
Oui, Apex, oui, voilà. Il y a du ouais, il y a du League of Legends aussi.
Oui, il y en a un petit peu sur PC, okay. Son 7e.
D'accord, OK. Il y en a plus des MMO hein.
Ça dépend ce que tu appelles un MMO.
Ouais, enfin
il y en a un qui n'est pas parti pour en être un à l'origine,
mmh.
Et qui aujourd'hui est un peu parti vraiment dans cette direction du RP, du...
Ah, donc GTA.
Ouais.
GTA Online, évidemment, je suis, c'est clair.
Enfin, du coup,
oh là
GTA
là,
5,
la...
parce
ouais,
que
mais
déclinaison
c'est
online.
La, c'est
mais oui, oui,
dessus.
Oui, oui. Ah, mais ils le vendent encore en grande quantité.
Mais pour moi,
et
c'est
il est dans les très très hauts, dans les temps de jeu, hein, enfin dans les utilisateurs
en vrai,
quotidiens.
C'est à se demander pourquoi ils sortent un 6. Hein. Mais bon. Enfin, vu
pour en gagner encore plus.
Ouais, ouais, non, mais vu comment ça. Voilà.
Ah, bah ça marche très,
mais,
très, très bien.
Mais en tout cas, le 6, il sortira directement avec une partie online, pas comme le 5 où on a attendu une partie online pour après, quoi.
C'est une bonne question.
Ouais, je pense qu'il y aura.
Ouais, je pense qu'ils prendraient pas le risque.
Je pense que, ouais.
Mais bon, globalement, on pourrait rajouter.
Qu'est-ce qu'il manque là-dedans? Du Genshin Impact, peut-être?
Non, du Genshin, non. J'en vois.
Ah, c'est très mobile alors, peut-être. Ok.
Je pense que c'est beaucoup plus proche. Ouais, beaucoup plus adapté au mobile. Okay. Non, du Minecraft.
Ah, oh, j'oublie toujours. Le...
Du
oh
Minecraft,
là, là,
évidemment.
Évidemment.
Sur PC, on a également les Sims 4, qui est pas mal.
Oh là là, c'est vrai.
Valorant, en Counter-Strike-like.
Ouais, j'oublie souvent Valorant parce que.
Ah, parce que c'est nul, hein, on va pas se mentir.
Alors, au-delà de c'est mauvais, parce que j'ai pas trop joué, mais j'ai un peu joué, mais. Quelle toxicité! Je veux dire, pire qu'Overcooked, hein.
On en reparlera avec les personnes qui tu as pourri la soirée hier. Non, il y a un petit Rocket League aussi?
Ah, bah oui, c'est vrai que c'est gratuit. Oui, vu que. Bah, Epic, j'aurais pu parier sur Fall Guys peut-être, mais.
Oui, sur PlayStation, il est très très bien. Il est 10ème. Il est 7ème sur Switch.
Quand même, hein.
C'est pas dégueu. Là, on passe effectivement sur PlayStation avec PlayStation et Xbox qui ont évidemment EA Sports 24 et FIFA 23 hein, qui sont très bien placés.
Oui, d'accord, ok.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a un petit Tom Clancy Rainbow Siege.
Alors, Rainbow Six Siege, c'est vrai que ça, c'est un truc qui va toujours
sur
étonner.
Sur console, ça marche bien.
En fait, c'est un truc qui va toujours étonner parce que moi, je me souviens du lancement qui était cata. Ouais. Et tout le monde qui disait que c'était pourri et que machin. Mais c'est un jeu qui a vraiment su se redresser sur le long terme. Et maintenant, voilà, il y a vraiment une communauté très solide. Sur,
ah, très active. Ouais.
Et un des trucs qui rapporte le plus à UI ces derniers temps, d'ailleurs.
Mais du coup, là, je vais vite fait parler de la Switch qui a un monde à part. Hein, la Switch avec donc, ses exclusivités évidemment.
Donc du Zelda,
du Zelda
Mario.
En deuxième, Mario en troisième, Mario 4 en quatrième, Pokémon en sixième, Animal Crossing en huit. Hogwarts Legacy,
en neuf. Quand tu vois en plus les jeux Pokémon qui sont sortis, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu des wagons entiers.
Oui, bah ils ont pris le même jeu d'avant, puis ils ont mis un autre nom dessus.
Avec tout le monde qui crache dessus en disant c'est nul, mais tout le monde achète.
Ils disent que c'est moche.
Ils disent c'est moche.
Ils disent pas que c'est nul.
Oui, ils disent que c'est moche, ils disent que c'est scandaleux, qu'on n'achètera pas le prochain, et après on a un prochain qui sort et ils le rachètent.
Et surtout, ils l'achètent plus cher que le jeu d'avant.
Oui.
Voilà. Parce que avant c'était 60, maintenant 70, maintenant ce sera 80. Enfin, on y est.
Non, mais ça marche.
Mais du coup, un truc intéressant dans ce.
Mais là, on parle juste en temps de jeu en plus. Hein.
Oui, en utilisateur régulier.
C'est fou.
Un truc très intéressant là-dedans, c'est l'âge des jeux. Sur la partie PC, la moyenne.
Bah, déjà tout ce que tu m'as dit de jeux sortis de cette année, il y en a deux.
Même pas.
Bah, il y a Baldur. Enfin, tu.
Je t'ai pas dit Baldur. Tu l'as dit, mais il y est pas. Ah non. Il y avait un petit Starfield sur Xbox.
Mais j'ai dit Starfield. Tu m'as dit non.
Oui, mais pas sur PC.
Oh là là.
C'était juste pour te dire non. Toujours est-il que sur PC, on est sur une moyenne d'âge des jeux qui font partie de ces 10 jeux les plus joués de 9,6 ans.
Ah, j'allais dire 6, non, c'est 9. Okay.
Sur PlayStation, c'est 7,4. Sur Xbox, c'est pareil, 7,2. Sur Switch, évidemment.
Beaucoup moins.
Son modèle à part, beaucoup sa différence, moins. 3,9.
Oui, beaucoup moins.
Beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Donc, on est vraiment sur quelque chose. Alors, il y a 2-3, ils font un petit bilan, j'ai envie de dire, des caractéristiques des jeux qui font ce top 10. On trouve bah, évidemment les plateformes de jeux, le Fortnite, Roblox, qui sont des plateformes finalement où on va jouer à différents types de jeux ou sur différents terrains de jeu. On va trouver les franchises annuelles, évidemment les FIFA, aujourd'hui Esports 24, Call of, qui est une franchise annuelle clairement. Hein. Les jeux multi-compétitifs, League of Legends, CSGO, Valorant, etc. On a les jeux bac à sable aussi, Minecraft, GTA Online, les Sims, oui. Peut être rentré dans cette catégorie. Starfield finalement est l'exception, mais sur Xbox seulement. Et la Switch, encore une fois, fonctionne vraiment très différemment.
Starfield, après, ça a été vraiment le. Enfin, il a été construit en termes de marketing comme le système seller.
Oui,
ce qu'il n'est pas forcément devenu, mais.
Il a poussé par le Game Pass.
Bon, là où je suis rassuré, c'est que malgré tout ce qu'on m'a dit, ce n'est pas avec un DLC qu'on arrive à réparer tout et à faire refaire jouer à des gens. Un jeu qui est sorti un peu cassé, et je parle évidemment de Cyberpunk 2077.
Alors, il a très très bien fonctionné.
Oui, mais les gens n'y ont pas joué longtemps, de ce que j'ai compris.
Malgré tout, au niveau économique,
les gens ont tous remis la main à la poche. Bah,
Oui, mais il y a un moment aussi, il faut voir le type de jeu. Le nombre d'utilisateurs actifs, etc. Quand on parle effectivement d'une plateforme de jeu où on peut revenir tous les jours pour jouer à des trucs différents, à le comparer à un jeu qui finalement a un début et une fin, on parle pas de la même chose en fait.
Il a un début et une fin, il est dans ton top. Il a un début et une fin, il est pas dans ton top. My case is rest.
Très bien, donc là on est clairement dans la mauvaise foi. Hein.
Bonjour.
Voilà. Mais effectivement, on constate vraiment une évolution là-dedans. Je disais donc que 66 titres avaient vampirisé le temps de jeu, c'est beaucoup plus en fait que les années précédentes. Où on était beaucoup plus sur 45-50% du temps de jeu qui était vampirisé par seulement quelques titres. Et surtout, on parle de jeux de plus en plus vieux. Alors, mathématiquement, en fait, parce que ce sont les mêmes jeux. Ce sont les mêmes jeux qui sont sortis il y a plusieurs années, qui aujourd'hui, on dépasse. On a 61% du temps de jeu qui est passé sur des jeux qui ont plus de 6 ans.
Ouais, d'accord.
Donc, et c'est contre ça, en fait, un petit peu la. Je résume un petit peu, je commence un petit peu à compacter les infos parce qu'il est moins 10. Mais c'est un peu ça une des conclusions finalement du rapport, c'est que les jeux qui sortent sont en concurrence avec ça.
Et oui.
Pas avec les autres jeux qui sortent.
Et oui, c'est pour ça. Le jeu vidéo, c'est comme le métal. Il n'y a que les vieux trucs qui intéressent les gens.
Oui. C'est une comparaison que je ne cautionne pas.
Copains,
voilà, c'est
parce
ça.
Que j'ai
ils
raison,
sont derrière la porte, ils t'attendent.
Parce que j'ai raison.
Mais donc, voilà, on parlait de ces jeux-là. Donc, sur les jeux sortis précisément uniquement en 2023, on a 90% du temps de jeu qui est concentré sur 48 jeux. Les 10% restants étant répartis sur les 1400 autres.
Ouais.
D'accord ? Mais dont certains ont quand même été des succès commerciaux, comme Cyberpunk, comme d'autres. Sur ces 90%, on a 20 jeux à achat unique, qui correspondent à 16% du temps, du temps de jeu. On a 25 pay-to-play live service, donc les nouveaux Call of, les nouveaux FIFA, Diablo 4, ce genre de choses, qui concentrent juste 73% du temps de jeu. Donc c'est juste massif, en fait. Derrière, on a... Enfin, si on divise un petit peu et qu'on se concentre un petit peu plus sur des franchises, 14% des revenus sont allés dans la franchise Call of Duty. 10% à la franchise FIFA, eSports, FC. 10% à la franchise NBA. NBA 2K.
J'oublie toujours NBA 2K.
C'est peut-être beaucoup moins présent chez nous.
Bah, en fait, le truc, c'est que c'est très, très US.
Ah oui, c'est centré. Très américain centré. Hein,
après, vu le nombre de gens qui ne dorment pas la nuit juste pour voir les matchs dans nos contrées, je pense qu'il y en a 2-3 quand même. Et je pense qu'il y a des fans. Mais autant j'entends souvent parler de gens qui parlent de FIFA, autant j'entends très peu parler de gens, des gens qui suivent les matchs.
C'est pas chez nous.
Mais des gens qui jouent à NBA 2K, il y en a quand même. J'en entends pas souvent, tu vois.
Beaucoup, beaucoup moins chez nous, en fait. Et on reste dans le sport, hein. Madden.
Bah oui, Madden.
Madden, c'est 6,8%.
Ouais, mais Madden, c'est FIFA aux États-Unis, hein.
Oui. Et si tu rajoutes à ça MLB The Show, donc Major League Baseball.
C'est la partie baseball, mais...
C'est 2,2%. Ouais, mais... Tu te rends compte de la quantité que c'est ?
Ouais, mais j'arrive pas...
Pour un truc qui nous parle pas à nous.
J'arrive
en fait
pas à m'imaginer des gens qui suivent du baseball et qui disent que c'est fun, quoi. J'arrive
Alors,
pas.
Call of Duty, FIFA, NBA, Madden, MLB, 44,5% des revenus des nouveaux jeux.
Et ce sont toutes des licences qui ont plus de 15 ans.
Des licences qui sont répétées annuellement.
Des licences qui ont toutes, on est d'accord, elles ont plus de 15 ans.
Ouais, largement.
Et je suis sympa en disant 15 ans. Hein.
Et c'est bien parce que NHL n'a pas continué, les jeux de hockey n'ont pas continué.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais bon, et du coup, voilà, enfin, un petit, il y a 2-3 trucs rigolos comme le temps de jeu par genre. Mm-hmm. Évidemment, les FPS sont loin devant. Évidemment, parce que Fortnite est considéré comme un FPS.
Oui, et puis j'ai vu ton temps de jeu sur Tarkov, donc merci bien.
Non, on a dit qu'on parlait pas des choses qui fâchent. Les third person shooters. Donc là on peut, pardon, oui, je considérais pas Fortnite là-dedans, il est dans les third person shooters.
Oui.
On est aussi c'est le deuxième genre, en fait, tout simplement, sur le temps de jeu.
Les juste avec Fortnite.
Voilà, les jeux d'aventure sandbox, donc là je pense qu'on peut y mettre Minecraft dedans, Roblox, je pense. Qu'est-ce qu'ils appellent ça, les hero shooters ? J'ai du mal à
les hero shooters.
Ouais, j'ai du mal à définir.
Hero shooters.
Après on a les action RPG, les sports. Hein, clairement, évidemment. Les Open World, Survival Craft. Bonjour, Palworld.
Oui, bah.
Bonjour, Rust. Bonjour, Enshrouded. Bonjour.
Bonjour à peu près tous les 3 jeux qui sortent sur Steam ces dernières années.
Oui, dont certains font des cartons monumentaux.
Ouais, ouais, ouais.
Valheim.
Oui, par exemple.
Par exemple. Donc voilà. Un petit truc qui va te faire plaisir, je sais. Celle-là, elle est vraiment spécifiquement pour toi. Les éditeurs. On a... quelques éditeurs qui rassemblent évidemment 80% du temps, enfin de l'activité du jeu vidéo sur les 12 derniers mois.
Ouais, je peux les deviner ceux-là, non ?
Ouais, bah, on n'a plus vraiment le temps.
Okay.
Mais on a évidemment 2K, Activision, Blizzard, évidemment, Publishing, Bandai, Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, avec Destiny 2.
Ah, Destiny marche bien, ok.
Ouais, ouais, Capcom, Epic Games, évidemment, Mojang avec Minecraft, Psyonix avec Rocket League. Riot avec toute la panoplie. On a Rockstar, évidemment, entre GTA, les Red Dead, ce que tu veux, Square Enix, Ubisoft, qui est cité dedans, Valve, hein, évidemment, Xbox Game Studio, et puis, bah oui, MiYoYo, parce que tu en parlais rapidement
tout à l'heure. Oui, bah oui, MiYoYo
de la galaxie Genshin.
Pour Genshin et pour l'autre, j'oublie toujours le nom, mais bref.
C'est ça. Et du coup, les remakes également, les remakes et remasters ont été...
Star Rail.
Voilà. On a effectivement, l'année dernière, on a eu quelques remakes, remasters qui ont plutôt bien performé.
Resident Evil 4.
Resident Evil 4, 6 millions de ventes.
Ouais.
FF7, remake, 7 millions de ventes.
Ouais.
On a des choses comme ça, en fait, des domaines, si tu veux.
J'ai l'impression qu'il y en a un qui a demandé plus de boulot que l'autre, quand même. Mais
Oui, on est bien d'accord. Bah, qui était plus vieux aussi.
Bah, c'est ça.
Forcément. Et donc, juste pour terminer, on a également la Game Discover Co newsletter. Je suis tombé dessus un petit peu au dernier moment, en fait, sur leur travail. Une newsletter sur le marché du jeu vidéo que je trouve très intéressante en général, que je conseille, qui s'est penchée sur les mêmes chiffres. Mmh. Donc, il parle évidemment du fait que les jeux plus anciens, de 6 ans et plus, occupent désormais 61% du temps de jeu sur PC et console, contre 45% en 2021. Donc, ils font le même constat que j'avais fait aussi. Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft, GTA V, 27% du temps de jeu total en 2023.
Pas étonnant.
Pas étonnant, mais ça montre bien ce que ça veut dire, en fait. Enfin, ce que, l'état du marché, ce que ça, contre quoi tu te bats quand tu lances ton jeu aujourd'hui.
Ah, mais c'est surtout, c'est des jeux, en fait, c'est de la niche, quoi. C'est-à-dire que
tu deviens une niche à partir du moment où tu ne fais pas partie de ça.
Faire du jeu, en gros, faire du jeu solo qui se finit en deux heures, c'est de la niche. Hein.
Oui, oui, complètement.
C'est de la niche, bien c'est sûr. Se battre. Oui, c'est. Voilà.
Bah, en tout cas, c'est. Enfin, je pense c'est que sûr, c'est déjà perdu si tu essaies de te battre contre ça. Juste, tu dois changer de public, en fait.
C'est sûr. Bah, face, par exemple, à tout ce qui est hero shooter. Bon, quand on dit hero shooter, c'est du coup les Valorant.
Ah oui.
En gros, c'est les FPS à personnage.
Peut-être.
Les Valorant, les Overwatch et non, le premier d'entre eux, les Team Fortress, quoi.
C'est possible, ouais, c'est possible. Mais du coup, oui, évidemment, en fait, le temps, comment dire, le fait de classer maintenant les jeux plus anciens, enfin les jeux qui ont plus de 6 ans, qui prennent une part énorme là-dedans, évidemment, mathématiquement, c'est que Fortnite est passé dans cette catégorie. En 2023, ce qui n'était pas le cas avant, donc forcément, ça bouge. Mais donc,
à partir du moment où ils font une carte OG,
oui.
C'est que c'est bon, ils sont officiellement vieux, quoi.
Ah oui, oui, complètement. Mais du coup, voilà, donc...
une carte OG qui est leur meilleur résultat, le meilleur audience de toute la vie de Fortnite.
Eux, ils ont retiré de tout ça une info, les 5 nouveaux jeux qui ont accaparé 3,5% des 8% du temps de jeu restant, donc vraiment, on part vraiment de tout petit. On va parler de trucs qui ont été des succès monstrueux. Les 5 principaux titres de cette petite partie de temps de jeu, c'est Diablo 4, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Elden Ring, Starfield. Collectivement, donc c'est que 3,5% du temps de jeu l'année dernière.
Sachant qu'Elden Ring n'est même pas sorti l'année dernière. Il est sorti avant.
Effectivement, il le classe dans les nouveaux.
Il est sorti avant.
C'est relativement étonnant, parce Elden que c'est le seul, en fait.
Elden Ring, c'est 2022.
C'est assez étonnant, ouais, qu'il le classe dedans.
C'est pas compliqué, c'était le jeu de 2022, et il n'y avait que ça, apparemment.
Ouais. Après, il parle aussi du fait que les nouveaux free-to-play ont du mal.
Bah,
en fait,
oui,
à se faire leur place là-dedans.
Bah, c'est ça le truc, c'est que limite, c'est plus facile pour un jeu avec un début, une fin, entre guillemets, parce que les autres jeux ayant un début, une fin, bon, ont été joués, entre guillemets, alors que bah, t'arrives avec ton nouveau free-to-play, avec ton nouveau...
jeu sans fin, jeu qui va te rajouter du contenu
avec,
en permanence.
Qui vont demander, bah, je suis désolé, mais moi je suis pris sur déjà 3 jeux et qui me demandent tout mon temps, j'ai pas le temps.
Voilà, ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Le seul... qui a éventuellement un petit peu tiré son épingle, c'est The Finals.
Tranquille, hein.
Aujourd'hui, le nombre de joueurs quotidiens, il s'est stabilisé à 10% des chiffres du lancement.
Ouais, c'est compliqué, The Finals. Hein,
Et il a beaucoup, beaucoup réduit déjà, quoi. Voilà, ils font la remarque, en fait, que...
Je me demande où en est X-Defiant.
il est encore à la cave, hein. Ils l'ont pas encore sorti. Hein.
Oui, oui, mais... Il va tout casser en sortant.
Oui, oui, oui. Il va casser les studios dans lesquels il a été développé, je pense. pas les ventes. Donc oui, intéressant, en fait, ils font le constat que Newzoo, pour eux, en fait, la Game Discover Code Newsletter, avait toujours considéré qu'ils étaient beaucoup trop enthousiastes sur le marché, dans leurs analyses différentes. Là, ils constatent que les données, elles sont finalement sombres et un peu effrayantes, d'une certaine façon, sur l'avenir du domaine, pour ceux qui veulent proposer des nouvelles choses. Et du coup, en fait, ils ont regardé si le rapport 2023... s'ils avaient un bon souvenir réellement du rapport 2023 de Newzoo aussi. Mmh. Et effectivement, bah, les conclusions de l'année dernière, elles étaient pas dans le même sens. Hein. Elles allaient beaucoup plus dans la positivité, dans l'espoir. Ils disaient 2023 sera une année de forte croissance, une année de riche en jeux de premier plan dans de nombreux genres et sur toutes les plateformes, etc.
Et c'était vrai. C'était vrai, ça a été une...
Une année riche, mais pas ça n'a pas pris la place de ceux qui étaient déjà là, de la façon en fait dont ils l'envisageaient.
Oh non, ça a été... Alors, je veux dire, en tout cas, en termes de richesse de propositions, ça a été une année incroyable.
Oui, tout à fait. Mais sur que ce qu'on disait, en fait, le temps de jeu, le temps de... L'accaparation du temps de jeu.
Oui, bah, le truc, c'est que...
Elle n'a pas été là.
En gros, c'est ça, c'est qu'une fois que les gens ont pris des habitudes et que les studios qui... ont ces jeux-là, cultivent ces habitudes-là, c'est plus compliqué de se faire une place.
C'est ça. Et du coup, pour eux, le rapport 2024 est beaucoup plus ancré dans la réalité. Donc ils sont beaucoup plus en phase en fait, avec ce calcul-là. Ouais. Mais le rapport en fait, précise une chose, avec laquelle je finirai peut-être, c'est que malgré tout, les joueurs sont encore friands et à l'affût des nouveautés sur lesquelles ils vont pouvoir se jeter.
Ouais.
Palworld. 25 millions de ventes en claquant des doigts quasiment.
C'est ça.
Enshrouded qui fait du très très bon aussi.
Helldivers 2.
Helldivers 2 qui
marche très bien.
Qui marche très très bien et qui arrive à garder ses joueurs.
Oui.
Donc au final, il y a encore de l'intérêt et de la volonté des joueurs d'aller essayer.
Je suis d'accord avec toi et je pense que globalement, ça sera plutôt très compliqué de reconstruire un immense comme ceux dont on vient de parler. En gros, c'est un nouveau Minecraft, un nouveau GTA Online, un nouveau Fortnite. C'est quasi impossible structurellement de le construire. En fait.
D'aller chercher sur ces terrains-là.
C'est quasiment impossible maintenant. Et je pense que qu'il y aura une restructuration de l'industrie pour aller viser des terrains moins grands. Et tous ceux qui voudront viser trop grand vont se casser les dents de façon spectaculaire. Après, on verra dans 4-5 ans quand ces jeux-là seront beaucoup trop vieux d'un point de vue technique.
Il y a ça, et en même temps, l'âge aussi des gens.
Oui.
À quoi auront envie de jouer dans 3-4 ans les gens qui ont grandi avec Fortnite?
Oui.
Est-ce qu'ils auront toujours envie de jouer à Fortnite?
C'est
à
ça.
Minecraft
Non,
je suis
d'accord.
C'est une évolution comme ça, en fait, de ça.
Je connais des gamins qui ont 13-14 ans, qui ont vécu toute leur vie avec Fortnite. En gros, ils ont fait 6 ans. En gros, tu dis que le jeu a 6 ans. Ils ont 13-14 ans. Ils ont commencé à 7-8 ans avec ça. Ils ont tout le temps eu Fortnite. Quoi. Donc,
qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Vers quoi ils iront? Est-ce qu'ils auront envie d'aller vers autre chose? On a tous connu des gens qui ont connu WoW, World of Warcraft, et qui ont finalement quasiment joué à rien d'autre.
Non, mais écoute.
On connaît suffisamment de gens qui jouent au FIFA, mais à rien d'autre.
C'est ça.
Et les chiffres le montrent.
Call of, pareil.
Et rien d'autre. Intéressant, en tout cas. Pour certains points, sur certaines conclusions, ou en tout cas certains rapprochements entre certaines évolutions, notamment le nombre de joueurs, je trouve. L'évolution du nombre de joueurs qui s'est beaucoup ralenti, et le temps de jeu qui diminue. Ça, c'est des indications quand même qui auront une importance sur l'état de l'industrie de façon générale, et qui ne serait pas forcément étonnant que ce soit allié au licenciement actuellement, parce que perspective de croissance...
Ouais, non, mais j'allais dire, on n'a pas fini de virer des gens dans le domaine. C'est super. Merci pour ton intervention, Ruven. C'était très, très sympa.
C'est une question de mathématiques, malheureusement. Mais c'est intéressant d'avoir des rapports qui mettent des chiffres là-dessus.
Ça marche. Eh ben, en tout cas, mais plus sérieusement, merci du coup d'avoir fait cette analyse-là.
C'est pas moi qui l'ai faite, mais...
D'avoir en tout cas, de nous avoir proposé justement ce rapport et cette lecture-là du rapport Newzoo pour l'année 2023, même s'il est paru en 2024.
Et oui, il faut du temps pour analyser les chiffres.
Évidemment. C'est ainsi que se termine notre émission du Nerf de la Game pour ce jeudi. On se retrouve jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se retrouve sur Radio Canu à 21h, jeudi 11. Et ce sera vachement bien.
Bonne soirée, Xavier.
Ciao.